baba.
I am your father.
On ne laisse pas Bibi dans un coin.
88 miles à
l'heure. I'll be back.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes de retour sur RKS et c'est toujours l'émission Ciné 7, fidèle au rendez-vous le dimanche soir à 19h. Et on retrouve quelqu'un, une bonne tête, notre maman, elle est là, elle est de retour de vacances, on est tous les trois de nouveau. Bonjour les enfants.
Salut, j'apprends que je suis la maman du groupe, c'est un peu terrifiant mais je vais faire de mon mieux.
Oui, mais t'es un peu la voix qui nous recentre, qui nous recadre quand on part dans des...
Ah, deux voix de mec, c'était pas ouf.
Ouais,
donc
déjà.
À peine arrivé, j'ai la pression, nickel. Allez, on y va.
Ah, t'as intérêt à assurer aujourd'hui.
Ouais, il faut assurer. De toute façon, c'est ton retour, t'es obligé d'assurer. Et pour le retour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors, on va parler... Donc, le sujet va porter sur les meilleurs biopics musicaux français. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
Alors, on va avoir le biopic de Claude François, de Serge Gainsbourg, de Edith Piaf et de Dalida.
Et de Grégory Le Marchal pour faire un peu de... Alors, même si c'est un téléfilm...
Je suis désolée, on a vraiment essayé de le dissuader, mais...
Il veut absolument le passer.
Oui, mais ça fait partie de l'actualité cinématographique, hein, même si c'est un téléfilm. Moi, je trouve que ça rentre dans le thème.
On verra ce que tu auras à nous dire dessus.
Oui. Bon, on en débattra, hein. Vous êtes là aussi pour ça, hein. Mais du coup, on va pas trop tarder, on va attaquer tout de suite avec la première musique. Jade, qu'est-ce que c'est cette première musique?
Alors, on commence avec Clo-Clo avec les Magnolias, si je ne m'abuse. On a bien dit ça?
C'est exactement
Magnolia
ça, c'est
Forever.
Magnolia Forever. On se retrouve tout de suite après sur RKS et sur Ciné 7.
Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle...
Et c'était Magnolia Forever, donc pour le film de Clo-Clo, donc sorti en 2012, réalisé par Florent Emilio Siri, avec comme acteur principal Jérémy Régnier, qui joue du coup Claude François, qui pour ma part, physiquement, lui colle parfaitement. Surtout sur les dernières, c'est les derniers instants de sa vie, avec la belle chevelure blonde, le beau rasage tout impeccable. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai vraiment cru voir Claude François revivre, quoi, renaître de ses cendres. Donc Clo-Clo, donc c'était un peu la mode à ce moment-là de sortir des biopics sur les chanteurs français. Donc après La Môme et Gainsbourg Vie Héroïque, donc ils nous sortent du coup Claude François. Donc pari risqué ou non, sachant qu'en fait Claude François, c'est un peu l'idole de, surtout aux années 70, c'était l'idole des jeunes en France. Voilà, c'était comme ça que c'était ça son surnom, donc l'idole des jeunes. Donc il y a un gros public derrière, notamment les Claudettes, donc toutes les femmes qui étaient amoureuses de Claude François, parce que son public était principalement féminin dans un premier temps, dû à son physique assez impeccable, toujours bien soigné, et qui d'ailleurs il prenait un malin plaisir à soigner justement. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous, de votre côté?
Moi j'ai été bercé par Claude François étant jeune, c'est les parents qui mettaient ça tout le temps dans la voiture à la maison. Donc avec ma sœur on écoutait beaucoup, et effectivement le film était pas une révélation mais coulait de source quoi. Ma vision du film coulait de source, et effectivement j'ai appris beaucoup de choses. Je savais que c'était un personnage qui était pas bien simple à vivre, mais à ce point-là non, je savais pas. Mais j'ai appris pas mal de choses, j'ai vraiment passé un bon moment. Et tu parlais de la ressemblance physique, je trouve qu'aujourd'hui on a une sélection où les acteurs ont réellement un effort. Il y a un vrai effort de casting, vous verrez dans les autres films sur lesquels on va parler tout à l'heure. Il y a un vrai effort de casting pour une ressemblance physique, pas forcément vocale, mais une ressemblance physique qui est vraiment bluffante. Et là aussi c'est bluffant.
Et puis surtout il n'y a pas eu beaucoup de maquillage sur l'acteur. C'était à peu près ses traits de visage naturels qui ont été utilisés. Ils ont changé un peu son nez, si je dis pas de conneries, parce que du coup, Claude François a aussi fait une chirurgie du nez, donc du coup, c'était assez cohérent par rapport au film. Et sa chevelure, et du coup, son style vestimentaire qui a été un peu changé, forcément pour coller à l'époque des années 60-70. Oui, comme t'as dit, Ken, du coup, c'est un film, on va dire, pas complexe, mais en tout cas, l'histoire, en fait, sa vie à lui est tragique et complexe. Donc, on va commencer avec classiquement un biopic avec son enfance, aparté, on disait que c'était un biopic sur les chanteurs français. Évidemment, Claude François n'est pas français, il est égyptien. Mais comme il parle, il chante français, il a vécu en France dans sa maison, dans sa demeure. On le considère comme un biopic français.
Oui, et puis sa carrière est française. Hein. Il a pas eu de carrière en Égypte. Hein.
Il s'est principalement montré à l'Olympia, donc ça montre que il avait un public principalement français. Après, il est allé un peu aux États-Unis. Oui. Mais principalement, c'est du français.
Puis il a quand même vécu au moulin de Danemois qui est à une heure de Paris.
Et c'était c'est très beau là-bas.
C'est un très très joli.
Très joli.
Pour ceux qui ne le savent pas, le moulin maintenant est de nouveau visitable. Parce que, à la mort de Claude François, il est tombé en friche. Et maintenant, ils l'ont refait à neuf. Et c'est devenu un musée avec beaucoup beaucoup de pièces d'origine, avec beaucoup de costumes par exemple. Et c'est vraiment quelque chose à faire pour ceux qui aime de près ou de loin la musique de Claude François. Vous allez vraiment ressentir sa vie et le personnage. C'est l'expérience en plus à faire après avoir vu le film, pour ceux qui ont apprécié le film et qui ont envie de savoir un peu plus sur sa vie et sur sa personnalité.
Bon, quitte à parler d'architecture, du coup, je vais m'y mettre vu que c'est mon domaine. Je ne vais pas parler d'architecture, je vais parler du film. Déjà, c'est un film très long, je crois qu'il dure 2h20. Et c'est le cas de tous les films qu'on a aujourd'hui dans la sélection. Enfin, évidemment, on ne peut pas raccourcir un film qui tend à traiter de la vie d'une personne. Quoi. Forcément, il y a des longueurs. Mais l'acteur principal, donc Jérémy Régnier, il est juste incroyable. Et je trouve que, comme c'est le cas dans beaucoup des films, il y a des moments où c'est vraiment l'acteur principal qui porte tout le film sur lui. Et en fait, qui donne la substance au film. Quoi. Ils sont vraiment dépassés dans les castings. C'est incroyable. C'est un film que j'ai trouvé très beau. Très esthétique dans les costumes, les décors. Il y a des moments où on s'y croirait vraiment. Mais, personnellement, j'ai trouvé que le portrait en fait, qu'ils avaient peint de Claude François, il n'était pas très nuancé. Genre, c'est un film qui est quand même très, très violent, très négatif. Mmh. Et j'avais vu des documentaires, je m'étais un peu renseignée et tout. Je sais que, comme disait Kélian, le personnage n'était pas simple à vivre. Mais c'est quand même un film... on n'est pas de super bonne humeur, quoi.
Il avait une apparence... Il avait une apparence assez sombre, autoritaire et maniaque au final. Enfin,
oui, tout
ça,
à fait.
On le savait déjà.
C'est ce qui a causé sa perte aussi, indirectement.
Voilà. Mais d'ailleurs, il avait même fait une musique qui s'appelle Le Mal-Aimé, où en fait, il va essayer de faire, se racheter auprès du public de ses proches pour dire, voilà, le Claude François que je vous montre sur scène, c'est pas le vrai Claude François. En dehors, avec ma famille et mes enfants, je suis différent. Ce que je vous montre, c'est vraiment... Les paillettes de ma vie, mais en soi, je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai besoin d'être aimé, rassuré, comme n'importe qui, quoi, en fait.
Oui, et c'est tout à fait, exactement, c'était un personnage qui était pas simple, et le film accentue un peu le trait, le montre un peu comme ça, et par exemple, un épisode qui est marquant de sa vie, dont ils ne font pas référence dans le film, c'est l'attentat manqué avec sa Rolls, quand il est rentré chez lui au Moulin. Il y a eu une embuscade et quelqu'un lui a tiré dessus. Il y a eu énormément d'impact de balles sur la voiture. Ils en parlent pas. Et c'est quelque chose qui aurait pu peut-être un peu nuancer cette vision-là du film, cet angle-là de l'homme maniaque un peu très
un
patriarcal
peu névrosé,
et névrosé et qui aime bien tout décider et prendre tout. Enfin, ils ont voulu montrer une part un peu sombre qui est tout à leur honneur parce que c'est une part qu'on reconnaît pas. Enfin, on a écouté par exemple Magnolia Forever, qui est une chanson qui est très gaie, très dansante. On imagine peut-être le personnage suivre avec le rythme de la musique. Ils ont voulu montrer une part plus sombre et effectivement, elle est pas suffisamment nuancée dans le film. C'est pas un documentaire, c'est un biopic, donc forcément il y a des
manquements. Il y a la prise de parti du réalisateur aussi. Par contre, on parle de musique, donc évidemment j'ai fait attention par rapport au thème de l'émission et je trouve que les musiques étaient assez bien intégrées au mixage final. J'ai trouvé que ça se faisait assez bien. Et du coup, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, que je voulais aborder aujourd'hui. C'est que dans les films, du coup, il y a deux types de musique. Il y a les types de musique diégétique et extra-diégétique. Donc la musique diégétique, c'est la musique que le personnage peut entendre dans le film. Et extra-diégétique, c'est ce que nous, on entendra en tant que spectateur, mais pas les personnages. Et j'ai trouvé que l'alliance en fait, entre les deux était assez bien maîtrisée. On avait un peu de tout et c'était assez sympa à écouter.
Oui, tout à fait. C'est un peu l'enjeu des biopics musicaux, hein. C'est savoir comment est-ce que les chansons que tout le monde attend vont être placées, comment elles vont servir à l'histoire ou non. On en parlait la dernière fois avec Rocketman ou Bohemian Rhapsody, qui ont deux approches très différentes de la musique. Et effectivement, dans les biopics français, dont on va parler aujourd'hui, la musique apparaît différemment, mais à chaque fois, je trouve, assez bien intégrée et sert à l'histoire.
Moi, ce que j'ai bien aimé par rapport aux musiques, c'est que dès que c'était diffusé, les musiques de Claude François, il y avait derrière, en fait, c'était pas juste du fan service, il y avait une véritable histoire derrière. Donc, par exemple, si je prends comme exemple la séquence où ça va être cette année-là, donc du coup, ça va retranscrire en fait sa première année en tant que chanteur, où il se faisait découvrir sur scène. On avait en fait une espèce de mise en scène où c'était en noir et blanc, on voyait en fait les tournées, enfin ces tournées à l'Olympia, ces tournées dans plein de petites villes, et en fait ça montrait les petits trajets en voiture, des séquences dans les loges, et tout ça en noir et blanc, donc pour montrer en fait que c'est du coup, enfin le noir et blanc dans le cinéma c'est souvent utilisé pour invoquer le souvenir, donc du coup quelque chose qui s'est passé précédemment, et c'était simple de mise en scène mais assez efficace.
Ouais, tout à fait. Et tu parlais de cette année-là, j'ai vu dans tes yeux que tu me l'as demandé, donc on va l'écouter tout de suite après, enfin tout de suite maintenant même, on part tout de suite là-dessus et puis on se retrouve tout de suite après sur RKS et sur Ciné 7, à tout de suite.
Plus j'y pense et moins j'oublie. adieu à Marilyn, au cœur d'or tendit, que West Side battait tous les records.
Alors du coup, on va revenir un peu sur Claude François parce qu'on n'avait pas fini d'en parler. Donc moi, je voulais faire un petit passage sur des mises en scène qui m'ont bien plu dans le film, donc sur la technique qui a été abordée. Donc il y en a une, je ne sais pas, du coup, pour ceux qui l'ont vu, il y a une mise en scène qui est assez intéressante. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans les films. C'est en fait, Claude François va faire écouter son disque à des amis. Il va poser du coup ce disque vinyle sur le plateau et en fait la caméra va faire le mouvement du vinyle. Donc en fait elle va faire un tour de 360 degrés sur la pièce et on va avoir l'impression d'être un vinyle et c'est assez intéressant comme c'est foutu. Je sais pas si ça a déjà été fait, je crois pas.
Sûrement.
Franchement, en tout cas sous les films que j'ai vus, c'est la première fois donc j'ai noté parce que j'ai trouvé ça super.
Ouais, c'est très intéressant. Mais le lien avec le vinyle apparaît aussi dans Rocketman, mais après...
J'ai pas le souvenir.
Si, dans Crocodile Rock, si je me trompe pas.
Et une autre mise en scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est lors des Olympiades de 1964. On va rentrer par le petit couloir rouge de l'Olympia. En fait, ça va être un drone qui va suivre du coup le public. Il va commencer du coup dans un couloir, puis il va s'élever, et on va arriver en fait devant tout le public de l'Olympia. Donc on va voir en fait quelque chose d'assez grandiose parce que du coup on est dans un couloir assez restreint, assez sombre. Et dès qu'on passe les portes de l'Olympia, là on a du coup un grand public avec le son à fond, Claude François qui danse, qui chante, qui est en effervescence. Et du coup plein de lumière et très grandiose au niveau du public. Je sais pas si vous avez remarqué, moi perso ça m'avait...
Moi j'avais remarqué que les scènes de scène justement...
Très bien chorégraphiées.
Sont très bien faites, très bien chorégraphiées et sont vraiment représentatives du showman qui était Claude François sur scène de son temps.
Et moi, la dernière chose que j'ai à dire, c'est par rapport à la chronologie. C'est pas forcément le film qui m'a le plus marqué des quatre que j'ai vus pour l'émission, là, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de véritable patte artistique. Dans le sens où c'est... Enfin, on en parlera après, mais par exemple, pour Gainsbourg ou pour Dalida, il y a eu des choses qui ont été tentées et ça marche ou ça marche pas, mais au moins ça a été tenté. Et là, ce que je pourrais reprocher moi à ce film, c'est que c'est un étalage chronologique de toute sa vie, et finalement, on la connaît, sa vie.
Oui, clairement, le scénario, c'est un documentaire.
C'est efficace.
Mais c'est efficace.
C'est efficace.
C'est pas forcément le film qui m'a le plus marqué, et je pense que c'est dû à ça, parce que je pense que j'en attendais plus, et que ça faisait vraiment, comme je vous dis, étalage. Enfin, si je voulais voir sa vie comme ça, d'une telle façon, j'aurais lu la page Wikipédia, quoi. Après, c'est un film très très beau. Donc...
Il est beau. Il m'a beaucoup plu. Quoi.
Oui, tu avais quelque chose à rajouter sur la photographie, il me semble.
Non, c'est juste qu'il y avait une photographie qui m'avait bien plu. C'est lors de son enfance, du coup, en Égypte, à Ismaïla, on va avoir en fait un plan. Son papa travaille en fait dans les ports.
Dans le canal de Suez.
Voilà, exactement. Plus précisément, on va dire. Et du coup, on va avoir en fait un plan sur Claude François de dos. Donc, j'aime beaucoup les plans de dos dans le cinéma parce que du coup, on va pas forcément.
On reparlera pas du Binary Sunset. Hein.
Non, mais
pas aujourd'hui.
Le fait que du coup, on peut s'identifier à la personne parce qu'on voit pas forcément son visage, donc ça peut être n'importe qui. Et du coup, il va avoir une image où il y a le bateau qui va passer devant lui. Le bateau qui fait une image de synthèse qui est pas forcément bien fait. Mais si on s'arrête sur la seconde de la photographie, c'est super beau. Je crois que ça a été utilisé principalement pour la vedette, la miniature de la bande-annonce de Claude François. Je crois qu'elle a été utilisée plusieurs fois.
Ouais.
Je l'ai trouvé très belle.
C'est très très bien fait. Et on va tout de suite enchaîner parce que là, ça y est, on a fini avec Claude François. Et on va enchaîner avec une femme, On a essayé de faire une alternance, une pseudo-parité pour aujourd'hui, avec une femme avec une très très belle chanson d'amour, une chanson qu'elle a dédiée à l'amour de sa vie, une chanson qu'elle a dédiée du coup à Marcel. Vous allez reconnaître de qui je parle et on se retrouve tout de suite après. On peut tous la dédier à notre amour, à notre femme, à notre chérie, comme ce que je suis en train de faire et comme la môme l'a fait à Marcel. À tout de suite.
On vient d'écouter Mon Dieu d'Edith Piaf et du coup c'est à moi que revient l'honneur d'introduire le film. C'est sûrement le biopic qui m'a le moins marqué. Moi je l'avais vu quand il est sorti, donc j'étais petite, c'était en 2007 si je ne m'abuse. Et je l'ai revu récemment pour les besoins de l'émission et je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Alors déjà, Edith Piaf c'est pas forcément une artiste que j'écoute ou que j'apprécie particulièrement. Mais c'est pas la seule raison, parce que j'apprécie pas non plus Gainsbourg et pourtant j'ai adoré le biopic. En fait, je trouve que le film est lourd. Il est lourd esthétiquement, il est lourd dans son sujet, dans toutes les choses qu'il essaye de traiter, dans le montage, dans les musiques. J'ai trouvé qu'en fait, en voulant être exhaustif, ça tombait un peu à plat en fait. Qu'il y avait tellement de choses qu'on s'y perd. Et notamment au début, quand le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, aidez-moi.
Aucune idée. Non plus. Franchement, là, aucune idée. On va chercher ça.
J'ai envie de dire Olivier Dahan, mais je suis pas sûre.
On est en train de trouver.
Si, c'est ça, c'est bon.
C'est lui ? Ok. Ouais. Et bah, il essaye en fait de montrer un peu l'enfance d'Edith Piaf, donc avec des parents un peu abusifs. Hein. Et du coup, il y a un étalonnage avec un bleu-vert sombre pour montrer le Paris un peu sale, un peu laissé à l'abandon. Moi, j'ai trouvé que ça traînait en longueur et en fait, j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage. Et du coup, c'est un film qui, pendant les 2h20 qui ont suivi, en fait, a pas du tout réussi à me prendre par la main et à me donner envie de regarder. Quoi.
Moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de flashbacks. C'était pas en fait linéaire la continuité de ce film-là. On revenait des fois dans son enfance, des fois on repartait dans son adolescence, des fois on allait à la fin de sa vie quand physiquement elle était vraiment pas top. Du coup, fallait quand même suivre. Non, mais c'est vrai, faut pas se le cacher.
Niveau santé.
Paix à son âme, toujours.
Niveau santé, voilà. Non, mais avec tous les médicaments, l'alcool et tout, oui. La drogue. Ça l'a ravagé, mais ça, enfin, on l'apprend à personne. Mais voilà, moi, les flashbacks, en fait, c'était pas forcément la chose que j'ai appréciée dans ce film.
Oui, c'est un film un peu lourd. Après, comme on l'a déjà dit, c'est un film taillé pour les Oscars. C'est le film parce que Marion Cotillard a eu l'Oscar d'interprétation pour le rôle principal, puisque c'est elle qui joue la môme dans tout le film.
Sauf tout petit,
bien
entendu. Elle est méconnaissable d'ailleurs, et encore une fois, un excellent casting, parce qu'elle est juste incroyable, et il y a plein de fois où vraiment elle sauve le film.
Ouais, tout à fait. Mais je trouve que ce que tu disais sur le fait que le film soit lourd et long, je pense que par rapport à Clo-Clo, le film est sorti 20 ans après sa carrière à peu près, Edith Piaf, le film est sorti presque 50 ans après sa vie, et donc ils ont voulu faire quelque chose de plus exhaustif, plus documentaire et détaillé par rapport au fait que c'est moins facile. Dans l'univers populaire, qu'on connaisse la vie d'Edith Piaf plutôt que qu'on connaisse le personnage de Clo-Clo, parce qu'on a pu grandir avec lui, parce qu'on a pu aller le voir en concert ou des choses comme ça.
Bah, disons que le public qui était touché pour la sortie cinéma, ils n'ont pas connu Edith Piaf, ou très peu, alors que Claude François déjà un peu plus, parce que Claude François c'est années 70-80. Et du coup, il y avait forcément 78. Années 70, par exemple, c'était du coup là, les adultes qui vont venir le voir. La môme, c'était plus les grands-parents, et les grands-parents, ils vont pas trop au cinéma. Ouais. Donc, c'était, même si tout le monde connaît Edith Piaf, personne ne connaît forcément sa vie, surtout que sa vie est riche de rebondissements quand on voit le film. Donc,
Mais du coup, en voulant aller chercher un public comme ça, j'ai trouvé que ça le rendait moins accessible, le film. Et après, comme vous dites, c'est la course aux Oscars et il y a des trucs à respecter niveau mise en scène, niveau sujet.
Bah, l'ambiance,
et tout,
surtout. Mais... Il y avait l'ambiance à retranscrire. C'était pendant la période de la guerre.
Au départ, oui.
Elle est née pendant la guerre, je crois.
Oui, exactement.
Donc, il y avait déjà toute cette période-là, à remettre à l'écran. Qui n'était pas forcément chose facile, parce que mine de rien, c'est pas quelque chose qui est joyeux à parler, la guerre. Et donc, d'autant plus, si ça parle de Edith Piaf, comme on connaît sa vie, voilà. C'est pas forcément, ça va pas attirer grand nombre. Après, il a fait quand même un bon carton, on prend.
Oui.
Il a fait un bon carton. En tout cas, déjà, niveau critique, toutes ces critiques, c'est rare qu'on dise vraiment que c'est un mauvais film. On peut pas l'apprécier, par exemple, comme Jade, mais c'est rare de... Enfin, moi, j'ai jamais vu personne dire, voilà, c'est un mauvais film. C'est un AV, c'est faux.
Non, il a des qualités indéniables. Après, déjà, c'est pas un film qui, moi, m'a touché. Ouais.
Déjà, Marion Cotillard, physiquement, quand les jeunes... Enfin, quand Edith Piaf est jeune et que, du coup, Marion Cotillard la joue, on voit que c'est Marion Cotillard, il n'y a pas de souci. Par contre, quand elle commence à avoir un peu plus d'âge... Déjà qu'elle se rase, je crois, les sourcils dans le film.
Ouais,
enfin, en tout cas, voilà, pour le rôle, pour les besoins du rôle, elle s'est rasée les sourcils. Elle est totalement méconnaissable, même au niveau. Moi, je trouve qu'elle a vachement travaillé sa posture.
Oui, tout à fait.
Elle avait le dos un peu arrondi.
C'est vrai qu'elle était petite, Edith Piaf. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a surnommée la Piaf.
Mais ce que
le
j'aime...
moineau. Et c'est vrai que ça se ressent dans la posture, qu'elle est un peu voûtée, un peu repliée sur elle-même.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé, ce qu'il a fait le réalisateur, c'est que du coup, Edith Piaf, sur scène, elle avait toujours le dos droit. Parce qu'elle voulait avoir une certaine prestance pour son public. Elle voulait montrer qu'elle était en forme, que voilà, tout allait bien dans sa vie. Évidemment, c'était faux. Elle le cachait à son public. Mais du coup, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un miroir, en fait. C'est que du coup, quand on voyait les scènes de Marion Cotillard qui jouait la môme, donc du coup, chez elle, elle avait le dos voûtée, totalement arrondie, on dirait, elle devait avoir 40 ans, on dirait qu'elle avait 80 ans à ce moment-là. Et quand par contre on voyait les scènes sur scène, justement, donc les scènes où elle chante, là elle était gracieuse.
Ouais,
une belle robe noire, vachement, vachement élégante, bien maquillée, voilà, elle se donnait du coup, forcément physiquement, elle essayait de montrer au public qu'elle était bien. Et moi je trouve qu'il a bien réussi à retranscrire cette image-là d'Edith Piaf.
Et le film le montre aussi dans les scènes où elle est à bout physiquement à cause de la maladie ou autre, et qu'elle se force à monter sur scène pour son public. Ces scènes-là sont assez, assez bluffantes et assez poignantes, moi j'ai trouvé.
Et pour l'anecdote, je pense que tout le monde le sait à peu près, mais Marion Cotillard, elle a été elle n'arrivait pas en fait à se défaire de ce personnage-là. elle n'arrivait pas à défaire de ce personnage-là, dans le sens où elle a été pendant plusieurs mois, elle a fait des séances de spiritisme pour essayer de se défaire de ce personnage-là, parce que en fait elle a dit elle-même pendant l'interview que Edith Piaf a été abandonnée à la naissance et que pour elle en fait à un moment où elle a pris ce rôle-là, Edith Piaf voulait plus quitter Marion Cotillard, oui ou non on sait pas, mais en tout cas voilà, c'était je pense que déjà physiquement, déjà arrivé à un tel niveau de maîtrise d'acting, forcément ça laisse des séquelles. Forcément.
Et une scène qui est aussi très très parlante, c'est une scène qui t'a beaucoup plu, Marvin, avec un...
Tout à fait. J'en parle ou vous en parlez ?
Vas-y.
Allez, j'en parle. Donc du coup, pour moi, c'est la scène qui atteint le paroxysme du film. Ça va être le plan séquence. Donc quand on va apprendre, Edith Piaf va apprendre la mort de Marcel Cerdan, donc son unique et seul amour, que malheureusement, elle a pas pu vivre sa vie avec, ce qui est vraiment...
À cause d'un accident d'avion dans lequel il est monté par sa faute, entre guillemets, puisqu'elle voulait qu'il vienne la voir plus vite.
Ouais.
Et du coup, il a renoncé à prendre le bateau pour prendre l'avion.
Voilà, donc comme quoi la vie ne tient qu'à un fil.
Et après, pour l'anecdote, ils se sont quand même retrouvés actuellement, ils sont tous ensemble au Père Lachaise, pour ceux qui ne le savaient pas.
Voilà,
c'est pour l'histoire.
Mais voilà, donc le plan séquence, il est très beau. Donc du coup, on va avoir Edith Piaf qui va... avoir une hallucination, qui pense que voilà, Marcel Cerdan est avec lui dans son lit, qu'il est revenu pour la réveiller, mais en fait c'est faux, en fait c'est son imaginaire qui va faire ça. Il est déjà mort depuis longtemps, du coup ses domestiques vont lui apprendre la nouvelle et elle va totalement en fait s'effondrer. Et là pour moi c'est le point culminant de Marion Cotillard, c'est là où elle est vraiment elle est parfaite dans ce rôle là on va avoir une telle émotion dans son regard, dans ses cris. Et après, derrière, en fait, on va avoir un enchaînement, mais qui va être du coup dans un seul plan séquence, qui est assez ingénieux. C'est qu'on va se retrouver dans son couloir. Et d'un coup, juste avec un petit changement de caméra, sa robe va changer. Ça va plus être une robe de chambre, ça va être une robe pour son spectacle, pour son chant. Et elle va se retrouver devant un public. Et en fait, comme du coup, Jade l'a bien dit, elle était totalement dévastée par la mort de Marcel Cerdan. Et dès qu'elle retrouve le public, elle va se remettre droite, elle va rechanter pour son public, elle va faire l'effort de retourner sur scène. Et d'ailleurs, elle lui a dédié une chanson avant sa mort.
Et
est vachement en fait parlante du coup, quand on l'écoute après sa mort, parce que c'est totalement déchirant comme musique, mais c'est pour moi sa plus belle musique.
Et du coup, on va aller se crever le cœur un petit coup là.
Ouais, parce que c'est clairement son titre porte bien le nom de ce qu'elle est devenue populairement. C'est clairement actuellement l'hymne à l'amour.
Loin de moi, ma mère, si tu m'aimes. nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité.
On est de retour sur RKS et sur Ciné 7 avec un nouveau film, un nouveau biopic musical français avec encore une légende de la chanson française, c'est bien sûr Gainsbourg. Le film, il est sorti en 2010, c'est Gainsbourg sous titre Vie héroïque, mais c'est pas un biopic que comme les autres, un biopic à l'image de ceux dont on vient de parler. C'est un conte, et c'est bien écrit dans le générique de début, c'est un conte créé et réalisé par Johan Svaar. Pour ceux qui ne connaissent pas Johan Svaar, du coup, c'est lui le scénariste et le réalisateur du film. Mais c'est surtout, à la base, un scénariste et un dessinateur de bande dessinée. Je ne sais pas si vous le saviez. Il a scénarisé et créé la série Le Chat du Rabbin. Et il a aussi réalisé et dessiné beaucoup de donjons. C'est une série de bande dessinée très très connue. Donc c'est pour ça que le film est un peu particulier. On en parle tout de suite après. Mais ce n'est pas un biopic exactement fait... comme un reportage, comme un documentaire. C'est beaucoup plus poétique et extravagant. Et avec le rôle-titre encore, avec une bluffant dans dans la ressemblance physique de Eric Elmosnino.
Alors, je prends la relève. C'est le film qui m'a le plus surprise et le plus touchée de tous les films dont on a parlé aujourd'hui, en fait. Je l'ai vu récemment. Et en toute honnêteté, je pense que je ne l'aurais pas regardé si ce n'était pas pour les besoins de l'émission. Parce que Gainsbourg, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute, je n'ai pas grandi avec sa musique. Clairement, il ne fait pas partie de ma vie de tous les jours. Mais je me suis dit, bon, on va en parler, je m'y colle. Et en fait, ça a été une grande claque. C'est un bijou de cinéma, ce film. C'est d'une poésie incroyable, en fait. Et je pense que c'est ce qui se passe quand on mélange des arts aussi, quand on fait intervenir des choses différentes, qu'on essaye d'incorporer un peu, de faire un petit mix comme ça. Et on sent une patte artistique qui dépasse vraiment le cinéma. Comme tu dis, la bande dessinée, on retrouve des dessins de Sfar dans le film. Et il faut le regarder. Ouais. Et il y a tout un jeu avec des marionnettes, avec des pantins qui représentent la face sombre de Gainsbourg, tout ça qui est vraiment bien amené. Et en fait, je ne sais pas si vous, les garçons, vous avez vu Au revoir là-haut.
Non,
avec Albert Dupontel.
Et en fait, ça m'a fait un peu le même effet. C'est un film qui traite de sujets vraiment, c'est trash, quoi. Enfin, il n'a pas eu une vie super cool. Et à côté, il y a une poésie. Il y a une poésie incroyable qui fait qu'en fait, je sais pas, on est transporté et ça va au-delà des sujets tristes, au-delà de tout ce malheur. Et c'est vraiment, enfin, une poésie de bout en bout, quoi. Je dirais pas mieux que ça, une poésie.
Oui, enfin, ouais. Je trouve que c'est le terme de conte qui colle vraiment bien à ce film-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marvin, mais je trouve que ça représente bien ce que Johannes Sfar a voulu et a réussi à faire avec ce film-là.
Bah, ce que tu m'as appris, parce que moi je ne le savais pas, c'est que du coup le réalisateur était d'abord illustrateur de bande dessinée.
Ouais, et scénariste.
Et scénariste. Donc ça, je ne le savais pas. Mais en fait, en voyant le film, déjà l'intro, oui. C'est une intro en bande dessinée.
Ouais.
Qui est d'ailleurs très très bien filté, quoi. C'était très joli à voir et ça change en fait d'une intro classique où on va avoir juste les noms des acteurs et des personnages. Là, on va avoir une petite mise en scène qui va du coup nous attirer dans ce film. Donc moi, ouais, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc d'une part parce que c'est pas un biopic comme on a dit, donc du coup c'est un conte qui va reprendre des choses qui sont vraiment passées, mais en même temps ça va mélanger fantasy, donc comme elle a dit Jade, avec l'intervention de son, j'appellerais ça un peu un double.
Oui, c'est ça, c'est sa gueule dans le film.
Voilà, c'est celui qui en fait qui va un peu le pousser à parler aux femmes, d'être un peu plus décoiffé, mal rasé, enfin voilà,
plus son provocateur.
Personnage, voilà, plus provocateur. Et donc j'ai beaucoup aimé ce passage-là. D'ailleurs, petite anecdote, donc la gueule est jouée par Doug Jones. Donc Doug Jones, c'est en fait un acteur d'Hollywood qui en fait qui est à chaque fois engagé dans les films par rapport à son physique. Donc il a il est très longiligne en fait, il a un grand corps, des grandes mains, et il est souvent utilisé dans les films par exemple de Guillermo del Toro, donc pour des personnages en fait des monstres tout simplement, parce qu'il a une apparence en fait très hors du commun, et ça je savais pas. Et en fait c'est vrai que quand j'ai vu du coup la gueule, il est très grand.
Ouais,
et on voit que c'est pas la personne n'est pas sur des échasses par exemple, parce qu'elle marche droit, elle marche normalement, donc c'est assez intéressant, c'est une petite anecdote à placer.
Oui, et puis effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le style de dessin de Johannes Sfar, qui est très très particulier, la gueule ressemble vraiment à une caricature faite par Johannes Sfar. C'est une caricature de Gainsbourg avec les grandes oreilles, avec le grand nez. Et moi, pour l'anecdote aussi dans le film, quelque chose qui m'a beaucoup plu, beaucoup marqué, c'est la manière d'amener la tête de chou, l'homme à la tête de chou. Je trouvais ça super marrant et poétique, comme tu disais déjà tout à l'heure. Et c'est ça qui colle vraiment avec le terme de conte.
Et si moi je peux ajouter quelque chose sur l'acteur, donc je ne parlerai pas de l'acteur adulte, donc là je parlerai plutôt de l'acteur enfant qu'on va voir du coup pendant les 20 premières minutes. Donc déjà, trouver un acteur enfant qui joue bien, c'est rare. Là je trouve qu'en fait il a, je sais pas comment expliquer, il a une certaine prestance le gamin quand il joue à l'écran, enfin d'ailleurs pour jouer Gainsbourg jeune, fallait déjà avoir une certaine prestance, mais il le fait super bien je trouve. Voilà, comme en fait il va parler aux femmes même dès son plus jeune âge, il va jouer au piano devant les filles, il va être beaucoup plus à l'aise. On va le voir en fait que son père il va un peu le brider sur le piano, du coup il va pas savoir bien jouer, et dès qu'il joue en compagnie de trois filles, là il va, ça y est, là il vient super fort. Et en fait c'est exactement, en fait c'est Gainsbourg, quoi. Gainsbourg, il aime les femmes et ça se voit dans ce film, et voilà, de toute façon c'était,
ça se voit dans les chansons aussi.
Exactement.
Et du coup je finirai personnellement en disant que c'est un film décalé. Je pense qu'il faut pas aller le voir en le prenant en sérieux, en fait, en se disant qu'on va aller voir la biographie de A à Z de Gainsbourg. C'est pas le cas, c'est plus un hommage personnel je pense du réalisateur que vraiment un biopic pur et dur. Et on a quand même un beau casting avec de belles références. On a Bardot, Birkin, Brassens. Mmh. On a même Boris Vian qui est joué par Philippe Catherine. C'est totalement décalé.
Putain, ouais, quand j'ai vu ça, au début, je l'ai pas reconnu.
Et on a également Juliette Gréco donc, qui nous offre une jolie scène dans le film avec la javanaise qu'on va écouter tout de suite.
À tout de suite.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Laissez-moi danser, laissez-moi.
On vient d'écouter Laissez-moi danser, qui est issu donc du film Dalida. C'est un biopic, moi, que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, mais parce que j'ai grandi avec les musiques de Dalida par ma mamie, donc vraiment j'en ai bouffé. Mais sinon, niveau vraiment purement cinématographique, j'ai trouvé que c'était un film, on n'est pas d'accord avec Marvin, on va en parler tout à l'heure, qui se concentrait plus sur la femme que sur l'artiste. Et j'ai trouvé en fait que ça manquait de processus créatif, de voir un peu ce qui se passait dans les coulisses, tout ça. Et au final, on a un film qui est rythmé en plusieurs actes selon sa vie sentimentale, en fait. Donc, je pense que le film aurait pu gagner à explorer un peu plus tout ce qui avait à trait avec la musique, avec l'écriture, tout ça. Et je trouve qu'il a un peu perdu de ce côté-là. Après, ça reste un très beau film et une excellente performance de l'actrice principale dont j'ai encore perdu le nom.
C'est une mannequin italienne qui ne fait pas de film de base.
Je suis sûre du prénom, mais je me rappelle.
Non, franchement, je vais chercher ça parce que c'est important.
En tout cas, une très belle performance. Elle a été révélée par le film, donc elle était totalement inconnue.
Physiquement, ça,
ouais,
la ressemblance, ça fonctionne. Et ensuite, de très beaux second rôles, vraiment un casting 5 étoiles.
Alors, c'est Sveva Alviti.
Ouais. Voilà. Et puis ils sont allés chercher une italienne parce qu'on parlait tout à l'heure de Claude François qui était égyptien, mais Dalida est d'origine italienne et a même vécu en Égypte, on l'apprend dans le film, et elle s'appelle Yolanda Gigliotti.
Voilà.
D'ailleurs, en parlant d'italien, moi ce qui m'a un peu dérangé dans ce film, c'est que du coup, même si c'est un film avec une société française, fallait bien que ça reste dans l'histoire, mais il y a vraiment beaucoup de passages italiens, donc moi je m'en fous de ça, mais c'est juste qu'en fait il n'y a pas eu de traduction derrière. Moi j'ai vu ce film, il n'y avait pas de traduction, donc du coup après on arrive très bien à comprendre quand même.
T'avais pas les sous-titres?
T'as dû le pirater le film encore,
non? Même pas, non même pas, mais du coup c'est un peu dommage parce que du coup c'était des dialogues assez longs et que des fois j'étais un peu perdu dans le film et que ça m'a fait un peu décrocher à certains moments parce que en fait je comprenais plus rien. Il y avait 2-3 passages que tu comprends parce que c'est des mots simples d'italien et tu comprends en fait, si tu suis un peu le film visuellement tu comprends qu'est-ce qu'ils se disent, s'il y a une dispute ou une embrouille, mais c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que du coup il y avait quand même pas mal de passages italiens alors que des fois ils pouvaient très bien parler français à ce moment-là. Quand par exemple ils sont
surtout que des fois ils coupent le dialogue en italien pour lancer des phrases en français. Voilà. Donc, pas pourquoi.
Par exemple ils sont en plein milieu d'un repas de famille à Noël entre italiens et d'un coup ils vont parler français. Je sais pas pourquoi.
Ouais.
J'ai pas compris.
C'est peut-être l'actrice qui avait pas envie d'apprendre le français complètement. Elle a dit je fais de l'italien à un certain moment et après je coupe.
Un petit peu. Qui prend la parole sur
Dalida? Moi, par rapport à ce que disait Jade. J'ai trouvé que le film était plus rythmé par les musiques que par sa vie sentimentale. En fait, je sais pas, on parlait tout à l'heure du coup de l'introduction des chansons dans les biopics. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, à tort ou à raison, les musiques faisaient avancer le film dans la mesure où, avec le film, on comprenait l'histoire de la chanson.
Ça, je l'ai trouvé vraiment incroyable pour ça. C'était vraiment bien intégré au scénario.
Pour toutes les chansons, pour Gigi Lamoroso ou autre, pour toutes les chansons qui sont diffusées, on apprend et on comprend mieux l'histoire du film, de la chanson avec le film. Alors après, est-ce que tout est vrai ou non, ça, il faudrait regarder. Mais j'ai trouvé que là, par contre, c'était assez bluffant. Et par exemple, pour Laissez-moi danser, c'est vraiment la révolution d'Alida avec le disco, les choses comme ça. Là-dessus, c'est vraiment bluffant.
Moi, par exemple, qu'on se le dise, de toute façon, la production de Dalida a été lancée, c'est grâce au succès de Claude François, parce que du coup, ils ont vu que ça marchait de faire des biopics sur des chanteurs qui étaient très appréciés en France. Donc, ils ont lancé cette production-là. C'était un pari aussi, comme j'ai dit du coup pour Claude François, elle est très appréciée, c'est rare que quelqu'un n'aime pas que la Dalida, donc il fallait déjà trouver une bonne actrice, ils l'ont fait, très bien. Après, au niveau du sujet, par rapport à Claude François, je trouve qu'il mettait vachement en valeur son côté sombre, donc Dalida n'a pas de côté sombre, mais par contre
elle a une vie sombre.
Voilà, mais par contre on se concentrait beaucoup trop sur Dalida et pas assez sur la personne. C'est quoi son nom, vrai nom déjà, je me rappelle plus.
Yolanda.
Voilà, on s'attardait pas assez sur Yolanda. C'était des petits passages où elle disait qu'elle voulait fonder une famille avec Lucien, l'épouser, et en fait ça passait très vite sur autre chose. Ça passait très vite sur des concerts de Dalida à l'Olympia, et moi ça m'a un peu dérangé parce que je voulais. Je connaissais un peu Dalida, mais je voulais en connaître plus sur Yolanda, justement.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mais après, on a aussi un très très fort axe sur toutes les péripéties et les grosses galères qu'elle a eues dans sa vie. On va pas toutes les citer, parce que, sauf si Marvin veut spoiler.
Le nombre de morts qu'il y a eu.
Le nombre de morts.
Non, mais sérieux. D'ailleurs, il y a un truc, pour faire une petite critique. par rapport à Claude François, Gainsbourg ou La Môme, là, on va avoir zéro point de repère dans le temps. En fait, on va passer d'une scène à l'autre et on va pas avoir le lieu, on va pas avoir la date. Mmh. Donc, si on connaît pas trop la vie de Dalida, bon, on est vite perdu en fait. On sait pas en combien de temps ça se passe parce que du coup, l'actrice ne change pas physiquement. Il se passe 10 ou 20 ans entre le début de sa carrière et la fin de sa carrière. Et en fait, on ne sait pas où elle est.
Il y en a quelques-uns, mais apprécié dans le film, qu'ils ont essayé de faire quelque chose avec la chronologie, qu'ils n'ont pas fait avec Claude François en mettant point A, point B, et puis on déroule toute sa vie. Là, il se passe un accident au début qui entraîne des flashbacks, des prises de parole des membres de son entourage, et ensuite ça reprend un fil un peu plus linéaire. Mais j'ai aimé comment il y a eu de la recherche dans la chronologie.
Bah oui, pour moi, ce que j'ai bien aimé, c'est du coup l'accident. On commence avec un accident de Dalida, donc déjà d'entrée, ça attire le spectateur. Et après, on va avoir du coup trois protagonistes qui vont en fait parler de Dalida avec une vision chacun différente. Donc, on va avoir l'ex-mari de Dalida, son amant et son frère, qui était du coup aussi son manager pendant un certain temps.
Et qui est toujours le gestionnaire du patrimoine.
Bah, de toute façon, je crois que c'est le seul.
Et il
est encore vivant,
lui,
de son côté.
Oui, Orlando est le seul héritier.
Il s'appelait pas Orlando de base.
Non.
Je crois qu'il s'appelait Pablo.
Non, c'est Bruno.
Paolo.
Oh, putain, oui, ouais. Bruno, okay. Oui, il me semble.
Je l'avais pas.
J'ai vu le film il y a 2 heures, t'inquiète.
Carrément. Et moi, je voulais juste faire un petit passage, encore sur une mise en scène que j'ai beaucoup appréciée. C'est le plan où Dalida est dans sa loge, en train de se préparer pour son concert. Et il va voir, du coup, Jean-Paul Rouve, l'acteur.
Lucien.
Voilà, Lucien, qui va arriver par derrière pour lui offrir une bague, parce que Dalida voulait se marier à ce moment-là. Et Dalida va être en fait représentée en trois personnes. Enfin, trois personnes, du coup, dans un axe avec des miroirs des deux côtés, donc gauche et droite. Donc, on va avoir la Dalida d'en face, qui va être représentée du coup de dos, puis de face, et gauche et droite. Et quand, du coup, Lucien va lui demander « Veux-tu m'épouser ?», Dalida, au début, elle ne veut pas. Parce qu'en fait, elle ne l'aime plus vraiment, mais pour son image, c'était un peu important. Et c'est en fait la Dalida de gauche qui va dire « Oui, je veux bien ». Et j'ai l'impression, alors je sais pas si je me trompe, mais ça me fait un peu penser des fois dans les bandes dessinées, quand on a le protagoniste et on a le petit diable à côté, donc on a l'ange et le petit diable, donc quelqu'un va prendre la bonne décision et l'autre la mauvaise. J'avais un peu l'impression que c'était un peu cette mise en scène-là qui était recherchée par la réalisatrice.
Un peu comme la gueule de Gainsbourg, quoi.
C'était
un peu son double maléfique.
Et j'ai trouvé ça vachement
beau. C'est vrai que c'était des personnages très forts qui avaient souvent une aura, tout un mythe autour d'eux, donc je pense que c'est bien que les films aient essayé de retranscrire ça à l'écran.
Et le fait que quand elle se retourne, Dalida, pour parler du coup à Lucien, ces deux côtés, donc gauche et droite, en fait ils vont pas se retourner avec elle, du coup ça va être un plan qui a été tourné différemment, je sais pas comment ça a été foutu, mais voilà, c'est pas en fait c'est un peu fantaisiste comme mise en scène, mais ça marche super bien. En plus, en fait, on s'y attend pas, on pense.
Ouais, c'est vrai que ça m'a surprise parce que sinon le film est très, y a rien d'extravagant, quoi, et là d'un coup on a cette scène et on se dit mais l'image a planté ou...
Mais c'est justement, je trouve ça super bien fait. Moi, ça m'a captivé quand j'ai vu ça. Et c'est vrai que je me dis, putain, cette mise en scène, là, c'est beau. Mm-hmm. Là, c'est recherché pour moi. C'est pas toujours recherché.
C'est ce qu'on veut.
C'est ce qu'on veut. Et après, au niveau de la photographie, moi, c'est surtout la colorimétrie qu'en fait, j'ai trouvé très beau.
Ouais.
Après, c'est assez récent, 2016 et tout. Mais au niveau des couleurs, on a des belles couleurs. Je pense notamment au
dernier
tiers du film.
C'est pas un spoil.
C'est le suicide, du coup, de l'ex-mari, donc Lucien.
Mm.
D'ailleurs, je sais même pas j'ai pas compris pourquoi il se suicide. Je sais pas si vous avez compris.
Parce qu'il est enfermé, lui aussi. Tous les deux s'aiment toujours à peu près. Elle a refait sa vie, lui aussi. Et en fait.
Sa femme lui dit d'ailleurs à Lucien qu'il l'aime sûrement toujours.
Et ben, on a une scène, voilà.
Et il suicide peu de temps après.
Il va suicider, donc il y a un couloir qui va s'approcher en travelling vers lui, avec des couleurs assez sombres, c'est assez bleu, et j'ai trouvé ça très beau.
Ouais.
Visuellement, ça m'a interpellé, quoi.
Et ça nous offre une des plus belles scènes du film, dont on va écouter la musique.
Exactement, c'est une musique qui vraiment, pour moi, c'est la musique qui représente le mieux sa vie, parce que elle est vraiment relative à tous les malheurs qui lui arrivaient. Et cette musique est là dans cette scène-là, au moment où Lucien se suicide et où elle est à l'Olympia. Écoutez, c'est Je suis malade, la version toute seule, pas la version avec Serge Lama. Et puis on se retrouve tout de suite après sur RKS et sur Ciné 7.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir.
je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Faire bientôt 2 ans que tu t'en fous, comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. J'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Malade, cerné de barricade. Tantôt je suis malade.
Et c'est avec cette très belle chanson qu'on va presque finir l'émission, puisqu'on est déjà arrivé au bout. On a fait 4 des 5 films. Le dernier, bon, c'est le biopic sur Grégory Lemarchal qui est sorti il y a quelques semaines sur TF1. C'est un téléfilm. Vous pouvez le retrouver sur mytf1.fr en replay. C'est un bon documentaire. C'est un film qui a été fait en grande partie pour soutenir l'association et pour lutter du coup contre la maladie. J'ai trouvé que le casting était plutôt pas mauvais. Après, le film en lui-même est, je trouve, plutôt, je dirais pas mal réalisé, mais c'est un peu le terme, quoi. Mais du coup, on va se quitter. C'était une bonne heure ensemble.
C'était une très bonne heure. J'étais Nickel. Contente de revenir, ça me fait plaisir.
Nous aussi, on était contents.
On était contents que tu reviennes. C'est vrai que tu as apporté ton petit plus. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la playlist des chansons d'aujourd'hui, plus quelques bonus sur la page YouTube de RKS, radio-rks.fr. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de RKS et de RKS.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Salut à tous.
Salut à tous. Et on se quitte avec Écris l'histoire de Grégory Lemarchal. À la semaine prochaine.
Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin.
Mais n'écris jamais la fin.
Dis-moi, tu me préfères à genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais.
Dans un coin.
88 miles à l'heure!
I'll be back.